Pour aujourd'hui, je vous propose de nous demander, une fois de plus peut-être, parce que c'est peut-être des choses que... des questions qu'on s'est déjà posées, nous demander à qui faire confiance, à comparer les valeurs humaines et les valeurs que Dieu nous propose. Et je vous propose de le faire au travers d'un texte que j'aime beaucoup depuis longtemps, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Et c'est un texte assez court. C'est un texte qui va des versets 9 au verset 17. Et je crois que ce texte nous montre bien qui, aujourd'hui, sera le meilleur objet de ma foi. Je vous lis. Au verset 9 du chapitre 18 de l'évangile de Luc. Il raconta aussi, Jésus donc, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Vous allez peut-être me dire, mais alors c'est pas pour moi, parce que je suis assez juste ou je ne suis pas trop juste, mais je méprise pas les autres. Mais je crois que le Seigneur nous appelle quand même à écouter ça. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours par semaine, je donne 10% de mes revenus. » Point de suspension. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » « Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste devant Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'ils posent leurs mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Jusque-là, notre lecture. L'importance de la prière. C'est vrai que c'est important de prier, on l'a déjà souvent dit ici, et ce n'est jamais trop de le répéter. La prière est importante, déterminante. Ici, nous avons deux hommes et nous avons deux prières. L'un était pharisien, l'autre était collecteur d'impôts. Pour commencer par le collecteur d'impôts, les collecteurs d'impôts étaient méprisés par tous pour des raisons politiques, pour des raisons morales, parce qu'ils collaboraient avec les occupants romains. Parce que c'est vrai que c'est important de comprendre le contexte dans lequel se passe cette histoire. Les Romains occupaient le pays d'Israël. Et les collecteurs d'impôts, ben, ils essayaient de collaborer avec eux. Et puis, parce qu'ils étaient chargés de prélever les taxes pour les Romains, qui étaient des occupants. Et alors, évidemment, ils prélevaient souvent plus que ce que les Romains même exigeaient. Donc ils avaient assez, voire très mauvaise réputation. Les pharisiens, eux, jouaient d'une grande popularité parce que leur attitude politique et leur attitude morale étaient justement contraires de celles des collecteurs d'impôts. Ils haïssaient les Romains et cherchaient à être purs de toute souillure. Ils s'occupaient de la loi de Moïse, ils donnaient la dîme de tout ce qu'ils recevaient et achetaient. Et ils observaient toutes les lois cérémonielles de purification aussi. Et en plus, ils méprisaient le commun peuple. Et il méprisait notamment les collecteurs d'impôts, parmi d'autres. Ces deux hommes, dans cette parabole, priaient, mais leurs prières étaient très différentes. Le pharisien, qu'est-ce qu'il disait ? Ben finalement, sa prière se résume en moi-je. Et on pourrait en rajouter. Debout, la tête haute, il se lance des fleurs avec la plus grande complaisance. Pour lui, il est satisfait de lui-même, il informe Dieu de sa très haute morale, de sa très grande piété, irréprochable. Il énumère le mal qu'il ne fait pas. Et il énumère le bien qu'il fait, comme si Dieu ne savait pas. C'est vrai qu'il faut informer Dieu de ce qui nous préoccupe. Alors est-ce que ces préoccupations, dans cette prière, étaient des bonnes préoccupations ? En même temps, le collecteur d'impôts, il ne se considérait pas comme quelqu'un ayant mérité la faveur divine. Il confesse son besoin d'être l'objet de la grâce de Dieu. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Et ça s'arrête là, sa prière. Sa prière est beaucoup plus courte que celle du pharisien. Luc disait en introduction de cette parabole que cette parabole visait à stigmatiser, à remettre en question ceux qui placent leur confiance en eux-mêmes et qui en plus méprisent tous les autres. Alors c'est un petit peu caricatural peut-être, mais Jésus est obligé souvent dans ses paraboles d'exagérer un petit peu les choses pour qu'on soit sûr de comprendre de quoi il est vraiment question. Dans le Talmud, il y avait un certain rabbi qui s'appelait Siméon ben Yohai et qui disait « J'ai vu les enfants du monde à venir. Ils sont peu nombreux. S'il y en a trois, moi et mon fils en font partie. S'il n'y en a que deux, ce sont moi et mon fils. » Et puis c'est arrêté là, parce qu'il n'a pas osé dire s'il n'y en a qu'un, mais vous pouvez imaginer la suite. Le pharisien, donc, se considérait comme unique. Et c'est vrai que quand nous prions, c'est nous qui émettons la prière. Et notre prière est unique. Il n'y a personne d'autre qui peut faire la même prière que nous, avec le même contenu. Donc, aux yeux de Dieu, effectivement, qui veut que nous le prions, ben, aux yeux de Dieu, nous avons quelque chose d'unique. Nous sommes une créature unique. Et nous devons le louer pour cela. Le collecteur d'impôts aussi se considérait comme unique. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. L'opinion différente qu'ils avaient d'eux-mêmes se reflétait dans leur attitude de prière. Vous avez vu, le collecteur d'impôts se tenait éloigné, et peut-être dans le parvis extérieur, il n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, et il exprimait sa repentance, comme on disait autrefois, c'est-à-dire son envie de changer de comportement, de changer de conduite, de changer du tout au tout. Et leur divergence entre ces deux hommes, elle apparaît finalement dans l'objet totalement différent de leur confiance. Le pharisien, eh bien, il était fier de ce qu'il disait de lui-même, il faisait confiance à lui. Alors que le collecteur d'impôts était tout différent. Le pharisien se vantait exprimait, ne le jugeons pas, qu'il accomplissait les trois devoirs religieux recommandés par le judaïsme. Et Jésus les a commentés dans le sermon sur la montagne. Il suffit de lire le chapitre 6 de Matthieu, les versets 1 à 18. Et ces trois choses importantes, c'était la prière, le jeûne et la dîme. Et le pharisien dépassait même les obligations que lui commandait la loi. La loi ne demandait le jeûne que deux fois par an, lui y jeûnait deux fois par semaine. La loi ne demandait que la dîme des produits du sol et du bétail, lui il donnait la dîme de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il achetait, de tout ce qu'il recevait, de tout ce qu'il vengeait. Il était ce qu'il disait, il n'extorquait pas d'argent aux gens, il n'était ni injuste, ni adultère, il n'avait pas enfreint la loi de Dieu, du moins extérieurement. Et le collecteur d'impôts, unique aussi, ben il disait ce qu'il était, politiquement et moralement corrompu. Maintenant, il est intéressant de voir le jugement de Jésus qui s'ensuit. Le pharisien n'était pas condamné parce qu'il était juste, mais parce qu'il était propre juste. C'est lui qui avait décidé jusqu'à quel point la justice devait aller. Et sa justice, finalement, donne l'impression d'être surtout extérieure. Il accomplissait ce qu'il fallait accomplir, parce qu'il fallait. Il accomplissait pas spécialement ce qu'il fallait accomplir parce qu'il aimait, mais parce qu'il fallait. Mais Dieu connaît le cœur de chaque homme. Le collecteur d'impôts n'était pas justifié parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il reconnaissait qu'il était pécheur, qu'il méritait la condamnation divine et qu'il faisait appel à la grâce de Dieu. Et à cause de cette attitude de propre juste du pharisien, Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu que les prostituées et les collecteurs d'impôts devanceraient les pharisiens dans le royaume de Dieu. On peut lire ça dans Matthieu 21, 31. Bien sûr, il faut que les collecteurs d'impôts reconnaissent leur péché, changent de comportement et croient. Et c'est cette différence qui était déterminante pour le salut de l'un et de l'autre, cette différence. Le pharisien remerciait Dieu pour ses propres mérites, qui le séparaient des pécheurs avec qui il ne voulait avoir rien à faire. Mais Jésus dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parce qu'ici, c'est vraiment une manifestation d'exaltation de soi-même, d'une part, chez le pharisien, et d'humilité. Et puis nous pouvons nous demander, tout simplement, à qui va notre confiance? Parce que c'est quelque chose qui est quand même valable pour nous aussi, tout cela. C'est caricatural, et puis... J'espère que personne de vous ne s'adresse à Dieu dans ses prières en disant « Seigneur, merci parce que je suis ce que je suis, parce que je peux observer, etc. » En se vantant, en présentant à Dieu tout ce qu'il a fait. C'est caricatural de la part de Jésus, mais c'est quand même très vrai parce que ça nous concerne et ça nous demande où va notre confiance. À qui va notre confiance? Est-ce que je me fais confiance à moi-même? Est-ce que je me base sur mon plan? J'ai un plan de vacances, j'ai un plan de travail, j'ai des plans pour ma journée, j'ai des plans de loisirs. Est-ce que ce sont ces plans-là qui sont... Ils sont importants, mais est-ce qu'ils sont déterminants pour moi? Est-ce que ça va me gêner si tout d'un coup, dans mon plan que j'ai d'aller en vacances, je ne peux pas partir? Pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Est-ce que ça va me fâcher? Est-ce que ça va simplement me contrarier? Ou est-ce que je serai capable de louer? Est-ce que le Seigneur me donnera la capacité de le louer pour ce changement de plan, pour ces choses qui vont se passer différemment? Alors cette parabole, elle précède immédiatement l'histoire de ces enfants, le récit des enfants que l'on amène à Jésus et qui nous montre manifestement que les disciples les plus proches de Jésus, ben, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore exactement compris de quoi Jésus voulait leur parler, parce qu'ils ont houspillé ceux qui les amenaient. Ils n'avaient encore pas compris à ce moment-là que l'humble dépendance d'un petit enfant était la condition indispensable pour être accepté par Dieu. Dans les versets 15 à 17, nous l'avons lu. Le royaume pour accepter le royaume de Dieu, il faut avoir la disponibilité des petits-enfants, l'ouverture des petits-enfants. Est-ce que moi je l'ai bien compris? J'ai un peu compris, mais des fois je me demande si je l'ai bien compris. Et nous, est-ce que nous l'avons bien compris? J'aimerais me référer à deux exemples que je ne traiterai pas en détail, mais qui sont très parlants. Dans Matthieu 18, 23 à 35, vous pouvez le relire chez vous, il est question d'un serviteur qui avait envers son maître une si grande dette qu'il ne pouvait pas la payer. Alors il est allé vers son maître et il a prié son maître de lui enlever cette dette. Et le maître la lui remet. Super, il a dû se sentir allégé d'un très lourd fardeau. Il sort de chez son maître et un peu plus tard, il rencontre un de ses collègues qui lui devait un peu d'argent, beaucoup moins que ce que lui devait à son maître. Alors il le saisit à la gorge et lui demande « Tu vas payer, hein, parce que sinon, ça va barder. » Et comme il ne peut pas payer non plus, ben il le fait mettre en prison à cause de cette dette, bien plus petite que celle qui lui a été remise à lui-même. Le pardon est un don gratuit que Dieu nous offre. Mais le pardon nous demande aussi d'être en mesure de pardonner volontairement. Parce que si nous-mêmes ne pardonnons pas, ben le Seigneur ne pourra pas nous pardonner. Ça, c'était le premier exemple. Inspirons-nous de ce premier exemple. Le deuxième exemple, c'est celui de l'apôtre Paul, qui était très zélé pour Dieu, qui était zélé pour la loi de Moïse et pour son application, et qui ne pouvait pas supporter les affirmations des chrétiens. Et à cause de ça, il les persécutait. Et il les a persécutés, on peut lire ça dans les Actes, jusqu'au moment où Dieu l'a terrassé sur le chemin de Damas. Au chapitre 9, il y a cette histoire et elle vaut la peine d'être lue. Et à partir de ce moment-là, Saul est devenu Paul et il a totalement changé de cap. Ce qu'il considérait comme très important, comme déterminant, ben il a fini par le considérer comme des balayures, comme nous le dit l'Épître aux Philippiens au chapitre 3. Aujourd'hui, 2000 ans après la mort de Christ, notre confiance ne doit pas se placer seulement dans la grâce de Dieu, mais elle doit se placer en Jésus-Christ crucifié. « Tout est accompli », a-t-il dit, et à la croix, il a porté tous nos péchés, et il nous a rachetés. Son sang est la preuve de sa mort. Et si nous prions dans le même esprit que ce collecteur d'impôts, nous aussi pourrons être déclarés justes à cause de Jésus. Jésus est venu déclarer qu'il ait donné sa vie pour en racheter plusieurs. Et si nous lui faisons confiance, eh bien, nous faisons partie de ces plusieurs. Sa mort était centrale dans son enseignement. Et il le dit dans de nombreux passages que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais par exemple, dans Jean 10 et au verset 11, Jésus se définit en disant « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis un petit peu plus tard, au verset 18, il confirme « En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre ceux qui veulent bien lui accorder leur confiance et leur foi. Et à partir de ce moment-là, Jésus est en mesure de modifier toute notre vie, de tout transformer. Alors, le Seigneur nous appelle et nous demande, aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi à nous transformer? C'est quelque chose de déterminant, parce que de cela peut dépendre toute notre vie. Alors, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, tu vois notre vie, tu vois dans quel état elle est. Tu vois depuis combien de temps nous t'avons fait confiance. Tu sais aussi si cette confiance a été interrompue. par des choses qui ont pris plus d'importance que toi. Seigneur, pour cela, nous voulons te demander humblement pardon et te confesser notre faiblesse, notre absolu besoin de toi en nous et auprès de nous. Et Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore fait précisément cette expérience de te trouver, de se placer sur le rocher que tu es, de suivre le chemin que tu nous proposes, Seigneur, nous te prions pour elle, nous te prions pour lui, nous te prions de te manifester clairement. Seigneur, mes paroles ce matin sont maladroites, mais ton esprit est tout-puissant. Et c'est ton esprit qui nous a transformés. Et c'est ton esprit, ton Saint-Esprit, qui transforme encore aujourd'hui les vies. Nous te prions, Seigneur, de continuer notre transformation et d'opérer aussi la transformation des vies qui ont besoin d'être chamboulées par toi. Merci, Seigneur, parce que dans ton amour, tu es capable. Tu es le Dieu du possible. Mais tu es aussi le Dieu de l'impossible et les choses qui peuvent nous paraître impossibles. Seigneur, elles te sont possibles à toi. Seigneur, nous aimerions te confier tous les gens qui nous entourent aussi dans ce monde, qui ne sont pas là ce matin, mais pour qui nous avons déjà intercédé. Nous te prions, Seigneur, pour les gens qui figurent sur notre marguerite. Ces personnes sont nombreuses. Seigneur, toi seul, tu peux les rencontrer dans ton amour et les convaincre de l'importance de se confier en toi plutôt qu'en elles-mêmes ou plutôt que dans les hommes. Seigneur, nous te prions de poursuivre le travail que tu as commencé dans toutes ces vies et nous te prions de te montrer pleinement puissant et efficace comme tu sais le faire pour que ces gens se tournent vers toi. Seigneur, tu ne violes pas notre volonté, mais tu nous donnes à tous la liberté de nous approcher de toi, pour voir, pour contempler, pour te rencontrer. Seigneur, que ceux qui s'approchent ainsi de toi soient toujours plus nombreux. Nous te le demandons avec humilité et au nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Amen.